Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Pour votre info, est présenté par Desjardins.
Cette semaine, après avoir distribué des centaines de millions de masques pendant la pandémie, le fabricant de vêtements sur mesure retombe sur ses pattes et passe en mode croissance.
On était 105 employés, on est rendu peut-être 65, on est peut-être à 60 % de nos ventes, 65, mais on est quand même capable de se dire que dans un an, on devrait revenir kiff-kiff avec ce qu'on était. Là.
Une entrevue avec le cofondateur de Surmesure, Vincent Thériault. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, l'invasion possible de la Russie en Ukraine a des conséquences économiques jusque chez nous.
Les prix de l'essence, très forte hausse, donc ce qu'on paye à la pompe, c'est déjà le reflet de ce qui se passe là-bas.
Je m'appelle Laurent Thérien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Il y a 2 ans, Vincent Thériault dirigeait une entreprise en pleine croissance, sur mesure, comptait 10 magasins au Canada, aux États-Unis, au Mexique, une centaine d'employés, dans un secteur en pleine ébullition, celui des vêtements pour hommes taillés sur mesure. Évidemment, la COVID a complètement bouleversé ses plans, mais 2 ans plus tard, l'entreprise reprend enfin son air d'aller, tellement que son fondateur a choisi de réaliser un rêve, celui de partir en tour du monde avec sa famille. Cette semaine, une entrevue sur la résilience et la conciliation entreprise-famille. Bonjour Vincent, bienvenue à Pour votre info.
Salut Laurent, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que tu nous parles du Chili. T'es dans le désert en ce moment avec ta famille, fais un long voyage. Partons de ça, t'es où présentement?
Ouais, en ce moment, je suis dans le désert au Chili, et dans le nord du Chili, à San Pedro, ça s'appelle, avec ma petite famille, 3 enfants et ma femme, et on explore le monde.
Ben, c'est merveilleux. On va venir à comment tu t'es rendu là dans quelques minutes, si tu veux bien, mais je vais te ramener en mars 2020. On va très certainement pas célébrer, mais souligner dans quelques semaines le 2e anniversaire de cette pandémie. Toi, il y a 2 ans, à la même période, si on se remet dans le contexte, en février, tu diriges une entreprise qui est en pleine croissance. Là, la pandémie arrive, vous faites un espèce de 180 degrés ahurissant. Rappelle-nous cette histoire-là brièvement.
Oui, tu le dis, tu sais, c'est prometteur ou le sur-mesure. Tu sais, on ne fait pas de la production de masse. Donc, tu sais, tout ce qu'on voit aujourd'hui du côté environnemental puis d'avoir une consommation plus saine, bien, c'est un peu ce qu'on a comme vision depuis 10 ans, moi et mon frère, qu'on a parti sur mesure en 2010 à Québec. Et bien, comme tu le dis, c'est ça, on était rendu avec une dizaine de succursales, centaines d'employés, tout allait bien. C'est sûr qu'on avait un cycle de vente qui nous faisait en sorte que, tu sais, nous, en décembre, lorsque tous les gros retailers, c'est là qu'ils font leur argent puis leur vente, nous, c'est notre période morte. T'sais, les hommes d'affaires ne vont pas magasiner en décembre. Ils vont magasiner pour tout le monde, mais pas pour soi. Donc, nous, de décembre, janvier, février, c'est vraiment notre période creuse. Et justement, avant la pandémie, ben, t'sais, c'est tout le temps à chaque année, puis on est un petit peu habitué avec ça. On a un cash flow qui est beaucoup plus serré, je pourrais te dire. On avait extrêmement hâte au mois de mars, où est-ce que là, tout ce qui recommence, le printemps arrive, tout le monde veut se remettre sur son 36, les mariages qui arrivent. Donc, nous, c'est 60 % de nos ventes qui sont entre mars et juin, juillet, je te dirais. Mm-hmm. Donc, on avait extrêmement hâte à cette période-là. Et nous, la COVID, on l'a vécu 2 mois auparavant, où est-ce que tout notre approvisionnement se fait beaucoup en Asie, dont en Chine. Et ben, il y avait déjà eu ces répercussions-là où la plupart de nos manufacturiers étaient fermés en janvier. Donc, on avait déjà vécu des délais. On voyait un petit peu ce qui se passait avec la COVID. Jamais on aurait cru que ça serait amené jusqu'en Europe, en Amérique du Nord aussi rapidement. Donc, on vivait au jour le jour, au mois de février, je te disais, à revoir maintenant, parce que là, les manufactures pouvaient réouvrir s'ils commençaient à faire de la production de masques. Donc, avec cette production-là, nos entreprises là-bas pouvaient faire en même temps nos vêtements. Donc, tout revenait à la normale. Et bon, on voyait de bon augure la suite. Comme tu disais, on était en croissance parce qu'on a autant sur mesure qui est notre B2B, que tout le monde, B2C, excuse-moi, que tout le monde connaît. Mais on a aussi un software qui s'appelle MTM Design, qui, lui, dans le B2C, qui fait beaucoup notre expansion là, et notre croissance, principalement aux États-Unis, avec un déploiement sur l'ensemble de toute notre compétition, qu'on pourrait dire, à sur mesure. Donc, on arrive en mars. Puis comme je te disais, on avait un cash flow extrêmement tight parce qu'on avait ces deux compagnies-là de front avec tous les employés et plus aucune entrée d'argent en mars. Fait qu'on avait le choix de se mettre en petite boule, comme j'aime le dire, moi et mon frère. On a regardé tout ce qui se passait avec les conférences de presse, avec des différentes institutions, autant dans notre association qui est le retail, qu'avec le gouvernement. Puis on comprenait bien qu'on allait passer à côté et qu'on n'aurait aucune aide. Et avec un petit peu d'insomnie, ben, un entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui bouillent dans une tête. Et une nuit comme ça, on parlait justement des masques avec nos manufacturiers, sans plus parce qu'on n'était pas dans ce business-là. Puis on voulait pas partir un nouveau start-up alors qu'on avait nos deux business qui étaient en train de crasher. Et quand même, j'ai lancé des perches pendant une nuit à trouver les organigrammes du gouvernement, puis des decision makers, pardon l'anglicisme, de ceux qui prenaient les décisions des achats d'équipement médical. J'ai lancé quelques perches, puis en l'espace de 2-3 heures, le lendemain matin, on me répondait. Puis la folle aventure qui s'est poursuivie avec un approvisionnement de au-dessus de 200 millions de masques qu'on a fait en l'espace d'un mois et demi, 2 mois. C'était rocambolesque comme expérience.
Ouais, puis c'est à coup d'avions cargo, à coup d'une vingtaine d'avions cargo qui sont arrivés au Québec, il y a quelque chose effectivement... Puis c'est une histoire qu'on a entendue au sens où elle s'est retrouvée un peu dans la presse, notamment vous avez été nommé comme la série d'entrepreneurs qui avait sauvé le Québec.
Ouais, j'aime pas ça dire ça de même, mais... T'sais, on était très silencieux avec toute cette aventure-là. Puis à vrai dire, on aurait voulu que ça soit resté silencieux. T'sais, nous, on l'a vécu intensément, mais t'sais, avec des contrats publics, tout avait sorti. Ouais. C'était avec le livre d'Alec Castonguay, entre autres, que tout avait sorti. On voulait d'ailleurs même pas lui parler. Puis c'est lui-même qui nous a dit, écoute, c'est une super belle histoire, puis on veut la mettre de l'avant, c'est pas quelque chose qui est négatif. Mais t'sais, reste que le masque, la pandémie, ça arrive toujours avec ses pros and cons. Puis on voulait justement pas afficher le brand sur mesure avec des masques, avec la COVID. Mais oui, tu sais, ça a été une aventure. Je pense qu'au début, ce qu'on a utilisé, notre plus grand levier, c'était notre réseau qu'on avait d'affaires. Autant ici, avec nos transporteurs, avec toute la logistique qu'on avait avec l'Asie, mais autant notre réseau là-bas. On a une personne en or, on avait notre propre bureau, on a encore notre propre bureau à Qingdao, en Chine. Puis cette personne-là qui s'appelle Vanessa est extraordinaire pour nous pour trouver les bons manufacturiers, trouver tout ce qui va être au niveau de la logistique là-bas. Fait que, au début, on utilisait des UPS, FedEx, DHL de ce monde pour faire le transport. Mais rapidement, on avait des quantités astronomiques, autant de masques que de blouses médicales. Là, ben, c'est là qu'on a commencé à se dire, ben, on va commencer à louer nos avions. Puis plus que ça grossissait, plus qu'on faisait juste les maths, puis on se disait, ben, c'est quel le plus gros avion du monde? Ben, on va en prendre un, puis on en prenait un autre, puis on y allait de la sorte. Fait que, on vivait un film, tu sais, puis c'est un peu quand tout ça s'est terminé, ben on a écrit notre livre, on a une cousine qui écrit super bien, Élise, puis elle s'est dit il faut que vous mettiez ça sur papier maintenant, que vous l'écriviez ou pas pour vous, tu sais, faites-le au moins pour vous, tu sais, pour ouais. Les autres on verra. C'est ce qu'on a fait pendant un an où est-ce qu'on a écrit notre propre histoire avec Tailler sa place, qui ça s'appelle, qu'on a lancé là, l'année dernière.
Mm-hmm, à l'automne. La vente, on s'entend des masques puis des équipements de protection individuelle. On comprend que ce n'est pas votre core business puis que ce n'est pas ça qui vous fait probablement vibrer, mais ça a sauvé la business, ça a sauvé vos finances. Là, on est 2 ans plus tard, la vente de vêtements chic, la vente de vêtements sur mesure, ça reste le cœur des activités de sur mesure. De ce côté-là, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sorti de l'eau un petit peu?
Oui et non. Ou est-ce que ben, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter. T'sais, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de Zoom et de Team et de...
Oui, mais pas en veston cravate.
Exactement. Donc, tout le monde est en mou. Fait que nous aussi, il a fallu s'adapter puis il a fallu en arriver à avoir du linge un petit peu plus casual, qu'on pourrait dire. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé beaucoup avec des chemises de flanelle ou avec des jeans ou avec des choses plus... Puis on est en train d'agrandir cette gamme de vêtements-là aussi. Mais on voit aussi où est-ce que, tu sais, on a des magasins aux États-Unis, au Mexique, puis c'est revenu à la normale. Puis même plus que jamais. Mm. Où est-ce qu'avant, tu sais, Pittsburgh était notre plus petit magasin et aujourd'hui, c'est quasiment un de nos meilleurs en termes de vente. Fait qu'on voit qu'il va avoir un retour du balancier ou est-ce que lorsque les gens vont avoir des événements, que ce soit des mariages comme on parlait tantôt ou encore retourner au boulot, ils vont vouloir être beau, comme on pourrait dire. Puis ils ont tous pris quelques livres ou ils en ont perdu. Fait qu'il faut qu'ils changent toute leur garde-robe, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Donc, on voit quand même de bon augure cette affaire-là. Puis encore là, avec le côté plus environnemental que je te parlerais, je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés avec cette approche-là au cours des deux dernières années avec la COVID puis tout ce qui se passe sur la planète. Donc, je pense que c'est de bon augure. Puis on sensibilise aussi notre clientèle avec cette approche-là qu'on a qui est plus saine, je pourrais dire.
Donc, tu es assez confiant, vous allez survivre, là. Vous allez passer à travers ça.
Oh, on n'est aucunement inquiet. C'est certain que les masques ont aidé beaucoup à avoir les reins solides. Comme tu disais, on était 105 employés. On est rendu peut-être 65, 70. On est peut-être à 60 % de nos ventes, 65. C'est un retour quand même lent, je pourrais te dire. On n'est pas une tech company qui a été... super bien puis ouais. qui a eu une valorisation de débile. Non, c'est pas notre cas avec sur mesure, mais on est quand même capable de se dire que dans un approvisionnement, peut-être dans un an, on devrait revenir kiff-kiff avec ce qu'on était là.
Ben, tu dis, vous êtes pas une business de tech, mais t'en es une, en fait. Ben, c'est l'autre face de...
J'en ai une aussi.
Exact, c'est ça. C'est MTM Design. T'en parlais au début de notre entretien. Donc, c'est un logiciel qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs, des clients qui sont dans ton industrie, celle du sur-mesure. Donc, c'est un logiciel qui, en fait, connecte des fournisseurs de vêtements comme toi avec le client, mais aussi avec les fournisseurs de matières premières, de textiles. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous diversifier puis de lancer ce logiciel-là? Est-ce que c'était parce que vous l'utilisiez vous-même?
À la base, c'est ça. C'est sur-mesure, on a créé notre propre logiciel. Et comme toute bonne compagnie qui investit massivement en technologie, à un moment donné, ça fait juste plus de sens. C'est rendu un gros trou noir, puis tu lances de l'argent dans le feu, un peu. Puis là, ça faisait ni queue ni tête. On a tout le temps des bonnes idées. On veut améliorer nos processus, mais il fallait le rendre accessible à beaucoup d'autres personnes, puis le changer d'un poste de dépense à une rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un spin-off de ce département-là, MTM Design, que ça s'appelle, où est-ce que toutes les technologies de sur-mesure sont rendues maintenant une entité à part. Et bien, on vend ce logiciel-là en une forme de SaaS, où on pourrait dire un peu un marketplace, pardon encore les anglicistes, où est-ce qu'on a rattaché plusieurs manufacturiers et les clients, qui sont dans le fond la compétition directe à sur-mesure, mais principalement aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et ils utilisent nos logiciels. Il faut savoir que, tu sais, avec sur-mesure, avoir 10 magasins, c'est quand même peu commun dans le sur-mesure, où est-ce que c'est très fractionné, je pourrais dire, le marché. Donc, on aide les plus petits entrepreneurs, les tailleurs qui ont 1, 2, 3 magasins, à arriver avec un standard de qualité beaucoup plus élevé, d'avoir des opérations beaucoup plus saines, je pourrais dire, sauver de l'argent, sauver du temps, parce qu'ils font tout à la mitaine, encore avec des Excel. Donc, ils utilisent notre logiciel, puis avec ça, ben, nous, on est capable de grandir puis d'avoir une deuxième compagnie qui est déjà profitable.
Ben, c'est ce que j'allais te demander. Donc, le pari est réussi. Vous avez réussi à passer de la colonne de la dépense à la colonne des revenus.
Oui, exactement. Puis même, tu sais, pour être franc avec toi, on essaie juste d'être break-even. Puis avec ça, on est capable, tu sais, toute notre rentabilité, bien, on engage des nouveaux développeurs, on engage du service à la clientèle pour faire en sorte que cette compagnie-là va grandir puis va devenir probablement le numéro un d'ici 1 ou 2 ans.
C'est fou, hein, le pouvoir de la technologie quand même. On veut vendre des vêtements puis on finit par produire des logiciels.
Oui, puis tu sais, c'est un peu aussi ce qui se passe où est-ce qu'on avait sur mesure le brand. On voulait vraiment faire une diffusion massive aux États-Unis, mais c'est très difficile en termes de marketing. Mais tu sais, quand on arrive avec du B2B, c'est une toute autre approche où là, c'est très ciblé, puis tu vas voir rapidement tes joueurs clés. L'expansion va être vraiment plus rapide, puis on fait autant de vêtements de célébrités, c'est juste qu'on peut pas le dire. Tu sais, on fait toutes les équipes de hockey, NFL, NBA, name it. Puis ça, c'est ce qui est malade en arrière de ça, puis on sait que tu sais, c'est notre produit, c'est nous qui le fait en arrière de ça. Donc, on a une petite fierté personnelle à le faire.
Bon, là, on le disait, tu nous parles en direct du Chili. On peut pas passer à côté du fait que t'es en tour du monde présentement. C'est rare, les entrepreneurs en tour du monde en ce moment. COVID oblige, oui, mais la plupart d'entre eux sont aussi en train de gérer une crise, même si on est 2 ans plus tard. Pourquoi partir en voyage maintenant? Pourquoi ce tour du monde-là, cette idée-là est née comment?
C'est né, ça fait longtemps. T'sais, moi et ma blonde, ma femme Catherine Savoie est dans l'entreprise depuis les tout débuts. C'est elle qui gère les finances dans l'entreprise. Puis j'ai participé aussi avec mon frère François. Puis on aime voyager depuis toujours. T'sais, nous, on est allé apprendre notre espagnol en Amérique du Sud il y a de ça 15 ans qu'on s'est connus à l'université. Puis on a toujours rêvé d'habiter ailleurs. Mais on a parti notre entreprise, puis ben on pouvait pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une belle fierté de voir que t'sais, un entrepreneur, quelque chose qui est le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'on peut être remplaçable. T'sais, qu'on n'a pas à être constamment dans les opérations de notre business à tous les jours. Puis aujourd'hui, de voir que je suis capable d'être à l'autre bout du monde, mais d'avoir une équipe qui est forte, structurée. On a un directeur général dans chacune de nos entreprises qui est extraordinaire. C'est Louis-Charles avec Sur Mesure, Eric avec MTM. C'est certain qu'on est en proche relation puis qu'on se parle constamment, mais ça fait qu'ils ont une pleine latitude puis ils sont capables de gérer le reste de la croissance. Fait que de mon côté, ben, c'est sûr, je suis parti en tour du monde. J'apprends aujourd'hui à être un professeur à la maison avec mes trois enfants de 5, 7 et 9 ans. Toute qu'une expérience, je vous dirais. T'sais, là, comme je disais, on est au Chili, dans plein milieu du désert. Donc, aujourd'hui, on a vu un volcan. Donc, j'ai expliqué à mes enfants qu'est-ce qu'un volcan, puis d'où que ça vient. Puis on est dans un désert. Et que je rapprends. Je te dis que aussi, c'est une bonne. Je pense que c'était le bon temps de le faire. Si mes enfants avaient été rendus au secondaire, je pense pas que ça aurait été le bon temps. Ou ouais. Faire des 4-36 puis des mathématiques plus avancées, ça aurait peut-être pas été mon fort. Et je pense que le timing était bon pour le faire, autant pour moi, ma femme, mes enfants et les compagnies aussi que nous gérons actuellement.
Donc, tu dirais donc que la conciliation entre le prof en toi, l'homme d'affaires en toi et le voyageur en toi, ça se passe quand même relativement bien.
Écoute, ça fait un mois que je suis parti. Il n'y a pas de feu dans aucune des maisons, fait que ça va bien. Là, on s'en reparle dans une couple de mois, je ne sais pas. Mais en date d'aujourd'hui, tout va bien.
Voyage de combien de temps?
Mais c'est certain que on s'est fait un an. On veut revenir à Noël l'année prochaine, donc fin 2022. Puis tu sais, c'est sûr que le moment est peut-être particulier avec la COVID, mais à un moment donné, on s'est dit, tu sais, la COVID peut être encore là 1, 2, 3, 4, 5 ans, on le sait pas. Tu sais, puis au Chili, c'est très surprenant, mais ici, même le masque, là, je devrais le porter à l'extérieur. Tu sais, il faut toujours le porter même à l'extérieur. Sauf que je pense qu'on pourrait même pas voir au Québec en plein été au mois de juillet que tout le monde à l'extérieur porte son masque. Fait que, je pense qu'il y a quand même des bonnes procédures un peu partout, peu importe où ce que nous allons, en fait.
Est-ce que tu penses déjà au retour? Je m'excuse parce que là, il te reste 11 mois de voyage, mais quand même, je peux pas m'empêcher de poser la question pour terminer notre discussion. Retour au Québec, donc, en 2023. Quels sont tes plans? Maintenant qu'on sait que tes entreprises peuvent vivre toutes seules puis que tes directeurs généraux s'en occupent bien, est-ce que tu veux lancer autre chose?
Bien, juste avant de partir, on a quand même lancé la fondation le 104, que ça s'appelle. Donc, c'est une fondation qui vient, qui pousse les jeunes à passer à l'action. Donc, un de mes très bons amis, Simon Gauthier, est à la tête de cette entité-là qu'on a créée avant de partir. Fait qu'on a déjà plusieurs projets en branle avec ça. Fait qu'on aide énormément au niveau communautaire. Sinon, bien, c'est sûr que moi, mon frère, actuellement, on fait beaucoup d'investissements. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de tech. Donc, on aime... On investit dans des compagnies de panneaux solaires, que ce soit dans du data center, où on aime tout ce qui touche de près ou de loin la technologie et le côté environnemental. Donc, je pense qu'on va avoir une belle percée à ce niveau-là avec notre entité qui s'appelle Suite 125, un peu qui rassemble toutes nos entreprises. Mais avec ça, tu sais, c'est sûr qu'avec MTM Design, on a énormément de potentiel. C'est sûr que je vais aller rejouer là-dedans en revenant. Fait que je veux pas faire peur à Eric, mon contacteur général, mais il sait que je le pousse puis que je veux que ça marche. Je vois vraiment un potentiel dans toutes les entreprises dans lesquelles on investit puis qu'on veut mettre notre temps, mais particulièrement MTM, je vois un super bel avenir.
Vincent, ça a été un plaisir de faire cette conversation-là avec toi. Prochaine étape après le Chili, c'est quoi? Donne-nous une idée de ton itinéraire pour terminer. Question de faire rêver un peu.
Oui, bien là, on s'en va en Argentine. Donc, un mois en Argentine, principalement à Buenos Aires. On va aller faire un petit croche au Uruguay avant de s'en aller au Maroc. Puis après ça, ben vous pouvez nous suivre sur 5bronzés.com. Moi et ma femme, on a comme parti ce petit blog-là plus pour notre famille, nos amis. Fait qu'on se promène ensemble, puis on parle un peu de nos expériences.
Bien, on va vous suivre, 5bronzés.com. Vincent Thériault, merci d'avoir été avec nous.
Hey, merci à toi.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
Bonjour, Jimmy.
Bonjour.
On suit, bien sûr, comme le reste de la planète, la situation à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'on en parle un peu cette semaine. Évidemment, on se demande encore si la Russie va vraiment mener une offensive en Ukraine, mais on s'y prépare et j'imagine que le milieu économique s'y prépare aussi. Est-ce qu'il y aurait un impact si la Russie menait cette offensive-là sur l'économie?
Oui, effectivement, c'est le grand thème hein, depuis la semaine passée, Laurent, cette menace d'une invasion. Et puis, on voit l'impact entre autres sur les cours du pétrole. Et c'est souvent ça qui se passe quand il y a une menace d'un conflit armé. On voit une prime géopolitique assez importante manifester au niveau des prix de l'énergie. Et cette fois-ci, c'est pas différent. Il y aurait un impact, évidemment, sur... on parle surtout d'un impact inflationniste. Parce que, entre autres, la Russie et l'Ukraine aussi, ben, ils ont tendance à être très impliqués au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans les semi-conducteurs. Et c'est drôle parce qu'on a déjà des problèmes au niveau des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. On essaie encore de s'en sortir des pénuries et de faire en sorte que la production automobile augmente. Or, il y a des matériaux importants qui rentrent dans la production de ces semi-conducteurs-là, le néon, le palladium, qui sont produits en Russie et en Ukraine. La Russie est aussi un producteur important de titane qui sert pour l'aérospatiale. Et donc, il va y avoir des impacts importants si ce conflit-là vraiment se matérialise au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans les matières premières. Et tout ça, évidemment, on parle d'augmentation de prix de l'énergie, un effet d'incertitude puis de confiance aussi en Europe qui pourrait faire en sorte qu'on voit les dépenses de consommation chuter en raison des prix. En fait, c'est ce qu'on a vu dans les dernières prévisions, entre autres la Banque d'Angleterre. Elle a diminué sa prévision de croissance économique, mais elle a augmenté sa prévision d'inflation. En Europe, c'est un peu la même chose. Donc, là-bas, ça pourrait jouer. Puis, est-ce qu'on pourrait avoir une récession? Pas impossible si ça va très mal.
Oui, hein? Ça peut se rendre jusque-là.
J'aurais tendance à penser que ça soit limité à l'Europe.
Cela dit, est-ce que ça va traverser l'Atlantique? Est-ce qu'on pourrait être touché au Canada?
On l'est déjà via cette prime géopolitique-là qui amène les prix du pétrole, les prix de l'essence, très forte hausse. Donc, ce qu'on paye à la pompe, c'est déjà le reflet de ce qui se passe là-bas. Je pense que, par contre, ça risque d'être beaucoup plus secondaire comme impact. S'il y a vraiment un recul de la consommation en Europe qui cause une certaine contraction économique, je pense qu'ici, on part d'un niveau où l'activité économique est assez forte, le marché de l'emploi est en très bonne santé. Bon, il y a eu cet accident de parcours au mois de janvier avec Omicron, mais on sait qu'on va rebondir. Donc, il y a quand même une bonne base pour soutenir la consommation. Puis même avec ces hausses de prix-là, de l'essence, de faire en sorte que la plupart des ménages soient capables de continuer à dépenser, à recommencer à retourner dans les activités de service qui sont en réouverture. Donc, je pense qu'on peut s'en tirer. Ce qu'il va falloir surveiller, par contre, c'est la riposte de la Russie. Parce que s'il y a une offensive en Ukraine et s'il y a des sanctions aussi sur la Russie, ben eux ils pourraient riposter. Puis il y a beaucoup d'experts géopolitiques en ce moment qui s'inquiètent d'une cyberattaque, entre autres. On sait que la Russie, elle est dotée de capacités assez importantes. Elle a fait du grabuge dans les dernières années, entre autres aux États-Unis, dans le système électoral. Donc, elle pourrait riposter de cette façon-là. Et s'il fallait qu'on ait un choc majeur, par exemple une cyberattaque sur le secteur technologique qui est très important aux États-Unis, le système financier, les services d'utilité publique, le réseau d'électricité, c'est des choses que une cyberattaque qui a du succès peut engendrer. Donc là, on pourrait parler d'un impact marché assez important et une plongée dans l'incertitude. Donc, on va espérer que c'est pas ça qui se déroule, mais c'est des façons dont ce conflit-là pourrait nous toucher plus proche de chez nous.
Oui, personne ne veut ça, hein, effectivement, de tel bouleversement. Et ça nous rappelle à quel point la planète est petite, finalement, puis un conflit au fin fond de l'Europe peut avoir des conséquences sur nos portefeuilles. Quand même, j'imagine qu'on n'irait pas jusqu'à dire qu'il faut changer ses placements ou qu'il faut faire des modifications maintenant à son portefeuille. J'imagine que la prudence prévaut quand même en ce moment.
Je pense que la prudence prévaut. Il faut, comme on disait en début d'année, il fallait se prémunir contre l'inflation, s'assurer d'être protégé contre ça. Moi, j'ai tendance à favoriser les actions de sociétés énergétiques, entre autres sur le TSX. C'est un sous-indice qui est très bien fait. Donc ça change pas. C'est le même constat. C'est dans un contexte comme celui-là, c'est les matières premières qui ont tendance à en profiter. Si on veut se protéger contre l'inflation, c'est une façon de le faire. Mais autrement que ça, il faut être, au point de vue de la prise de risque, il faut être très prudent cette année. Parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a aussi les augmentations de taux d'intérêt. Mm-hmm. Il y a la pandémie qui n'est pas tout à fait terminée. Donc, il y a beaucoup de facteurs de volatilité qu'il faut surveiller. Et donc, pas trop s'exposer aux classes d'actifs qui vont être vulnérables. Par exemple, les titres technologiques qu'on a vus depuis le début de l'année ou encore la bourse américaine. Je privilégie la bourse canadienne dans le contexte actuel, étant donné sa plus forte exposition aux matières premières.
Jimmy, toujours très efficace, très clair. Merci d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Philippine de Tinguy a coordonné cet épisode. Alexandrine Chappet est notre gestionnaire de communauté et notre musique est composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien, merci d'être avec nous. Si vous aimez Pour votre info, prenez une petite seconde pour laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous aide à faire découvrir l'émission. Bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine.